Okapi Service.
Okapi, Radio Okapi.
ONG partenaire.
Et Nounou est déjà dans ce studio. Bonjour Nounou.
Bonjour Thérèse.
Alors, quelle est l'ONG du jour?
Bien, aujourd'hui, nous allons découvrir l'Association de coopération et de recherche pour le développement Accor en sigle. Cette ONG, Thérèse, existe depuis 1996. C'est une ONG internationale et son siège se trouve à Kinshasa. Accor a aussi des bureaux à Kisangani et à Bouta, c'est dans la province orientale.
Et que fait concrètement Accor?
D'après le chef de projet de Accor, cette ONG travaille pour la justice sociale. Accor aide aussi les communautés de base à accéder à des moyens de subsistance. C'est-à-dire, Thérèse, l'ONG aide ces personnes à se prendre en charge.
Que le tribunal est saisi et que le tribunal s'est prononcé lorsqu'une partie n'est pas d'accord avec la décision du tribunal ou une partie reproche certains griefs à cette décision, la partie qui se trouve en droit ou qui est mécontente peut relever appel, c'est-à-dire attaquer ou contester la décision du tribunal. Et pour pouvoir le faire, la loi prévoit des formes et des délais. On doit d'abord préciser que l'appel est un acte strictement personnel, c'est-à-dire c'est la partie au procès qui est admise par la loi pour pouvoir relever appel. Oui. Lorsque cette partie est empêchée ou n'est pas disponible, elle peut se faire représenter par un mandataire, un avocat, un défenseur judiciaire, mais dans le cas d'espèce, cet avocat doit être muni d'une procuration spéciale de la partie concernée pour que l'appel puisse être recevable. Mm-hmm. Et une autre condition pour que l'appel puisse être régulier, l'appel doit être fait dans un certain délai. Oui. En matière civile, l'appel doit être fait dans les 30 jours qui suivent la signification du jugement.
Oui.
Et en matière pénale, l'appel est fait dans les 10 jours qui suivent la signification du jugement ou le prononcé du jugement lorsqu'il s'agit d'un jugement contradictoire, c'est-à-dire un jugement prononcé en présence des parties à la date prévue et après débat contradictoire entre les parties.
Mais vous avez parlé de recevabilité. Quand est-ce que un appel peut être recevable? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas?
Oui.
Qui ne peuvent pas l'être?
Effectivement, pour qu'un appel puisse être recevable, l'appel doit répondre à certaines conditions, donc remplir les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire, s'il n'est pas fait former devant, il doit être formé devant, en matière pénale par exemple, devant la juridiction qui a rendu la décision, le tribunal qui a rendu la décision attaquée, ou la juridiction immédiatement supérieure, le tribunal ou la cour immédiatement supérieure. Ce qui veut dire que pour les jugements rendus par les tribunaux de paix, l'appel peut être formé soit au tribunal de paix, soit au tribunal de grande instance.
Là, c'est pour les affaires?
Pour les jugements prononcés de par les tribunaux de paix.
Pour les affaires en matière?
En matière pénale, par exemple, oui. L'appel doit être formé soit au greffe du tribunal de paix, soit au greffe du tribunal de grande instance. Et pour les jugements rendus par les tribunaux de grande instance, l'appel peut être formé soit devant ces tribunaux, soit devant la cour d'appel du ressort.
Oui.
Et pour les arrêts ou les jugements rendus par la cour d'appel, l'appel peut être formé soit au greffe de la cour d'appel, soit au greffe de la cour suprême de justice.
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de délai. En matière civile, vous avez parlé de 30 jours et les matières pénales de 10 jours. D'abord, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a cette différence?
La différence, la matière civile, c'est une matière qui revient aux parties. Il n'y a que des intérêts personnels, des intérêts individuels qui sont en jeu. Et la loi laisse la latitude aux personnes. En matière pénale, il y a l'ordre public qui est troublé. Et comme l'ordre public est troublé, la matière pénale requiert généralement la célérité.
Mm-hmm.
C'est pour cela les législateurs prévoient des délais différents dans les deux matières.
Oui. Alors, supposons que je m'aperçois que j'ai avec un petit retard. Donc, que dois-je faire après l'avis? Que je dois faire si le délai est dépassé?
En principe, lorsque le délai est dépassé, l'appel devient irrécevable. Si la personne habite en dehors de la localité où le jugement a été prononcé, c'est-à-dire le jugement est prononcé à Kinshasa, la personne habite pas Congo et c'est sa résidence reconnue. Dans ces cas-là, les délais d'appel peuvent être augmentés de ce qu'on appelle les délais de distance, qui est de 1 jour pour 100 kilomètres.
Okay.
Donc là, on évalue, il y a un délai de distance lorsque la personne concernée n'habite pas la localité où se trouve le siège de la juridiction ou le lieu où l'appel doit être formé. Mais en principe, ce sont des délais stricts et lorsque par négligence, par imprudence, les parties passent les délais, au fait, quand ils forment l'appel après, cet appel est irrécevable, ne peut pas être reçu. Parce que les conditions de forme ne sont pas respectées. C'est-à-dire, on n'a pas respecté les délais, on a formé appel au-delà du délai prévu par la loi, on a formé appel devant une juridiction qui n'est pas compétente, on a formé appel par, non pas par la personne concernée, mais par un mandataire, par un représentant, mais qui n'était pas muni d'une procuration spéciale, où on n'a pas produit l'expédition pour appel, c'est-à-dire pour que les juges d'appel puissent examiner l'appel, la partie qui a relevé appel doit produire au dossier l'expédition d'appel, c'est-à-dire un document qui reprend l'essentiel ou toutes les étapes de la procédure antérieure en ce qui concerne les jugements attaqués. Si ces documents font défaut, les juges ne peuvent pas statuer sur le fond de l'affaire et dire l'appel irrécevable. Donc l'appel est irrécevable lorsque il ne remplit pas les conditions des formes prévues par la loi.
Oui, est-ce qu'on est obligé d'avoir un avocat pour faire appel? Ou bien est-ce qu'on peut commencer d'abord soi-même et puis en prendre un par la suite?
Cela ne pose pas de problème. C'est d'ailleurs mieux. On peut former appel soi-même par déclaration au greffe du tribunal. Il n'est pas nécessaire que l'avocat soit là. C'est lorsqu'on désigne un avocat, pour ce faire, l'avocat doit être muni d'une procuration spéciale de la personne. Mais la loi autorise que la partie lésée elle-même peut faire appel sans problème.
Oui, alors quel document est-ce qu'on doit avoir si on n'a pas d'avocat?
Non, en principe, quand on se présente pour relever appel, on peut avoir une copie libre du jugement, juste dire que je viens relever appel dans telle affaire, tel numéro, avoir les données nécessaires pour identifier la cause qui est attaquée.
Oui, ok. Bon, voilà, j'ai fait appel. Quand est-ce qu'il sera entendu?
En principe, dès que l'appel est enregistré au tribunal ou à la cour, à la diligence de la partie, surtout en matière civile où les affaires sont les affaires des parties, les greffiers préparent les notifications aux différentes parties au procès. Et quand on signifie l'appel aux parties, au procès, on doit laisser au moins un délai de 8 jours pour que les parties puissent venir se présenter et que les juges d'appel puissent statuer sur l'affaire.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Le verdict rendu après un jugement est parfois sujet à contestation pour la partie condamnée. Vous vous trouvez dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 081 070 2050 pour les SMS. Vous pouvez également appeler pour participer en direct à cette émission en faisant le 081 890 63 94. Alors, Maître Dominique, moi j'ai encore une question. Je fais appel et puis au cours de la procédure, je décide de ne plus poursuivre cet appel-là. Qu'est-ce qui se passe?
En principe, vous pouvez vous retirer, vous renoncer à vos droits, vous désister. Les tribunaux ou la cour va prendre acte et ne pas continuer à statuer sur l'affaire.
Et là, est-ce qu'il faut des documents? Est-ce que j'encours quelque chose?
Non, vous pouvez les faire par voie, en matière civile, par voie des conclusions ou parfois par une déclaration faite à l'audience. Il n'y a pas vraiment de forme solennelle pour cela.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui arrive si l'appel tarde? Est-ce qu'on peut, on va revoir le greffe? Qu'est-ce qu'on fait? Avec la lenteur, on connaît la lenteur de la justice.
Bon, lorsque ça prend du temps, on peut aller au greffe pour essayer de suivre. Surtout en matière civile, c'est à la diligence des parties que les affaires sont fixées. Donc, on peut aller au greffe, voir les greffiers, lui demander de faire diligence pour faire fixer l'affaire.
081-890-63-94, c'est le numéro auquel vous pouvez nous appeler pour participer en direct à cette émission. Et nous avons déjà Fabrice qui nous appelle depuis Goma. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour madame.
Oui, vous avez une question? On vous écoute.
Moi, j'ai une question sur les droits administratifs. Je voulais un peu demander si c'est la même procédure en matière administrative par rapport à notre sujet sur l'appel. C'est la même procédure qu'en droit civil ou en droit pénal par rapport au droit administratif. Et si ce n'est pas le cas, quelle est la procédure en matière, par exemple, des droits d'expropriation pour cause d'utilité publique? Et qui a compétence d'interjeter cet appel?
Maître, est-ce qu'il y a aussi moyen d'expliquer à nos auditeurs un peu la différence dans chacune de ces matières-là?
Ça va. Mm-hmm. On précise d'abord pour Fabrice que l'appel, quand on parle d'expropriation, il s'agit là d'un acte de l'autorité qui a exproprié pour cause d'utilité publique. L'appel est formé contre une décision d'un tribunal ou d'une cour. En matière administrative, pour les décisions des autorités provinciales, c'est la Cour d'appel qui est compétente. Lorsque la Cour d'appel est saisie en matière administrative et qu'elle s'est prononcée, lorsque la personne n'est pas satisfaite de la décision, cette personne peut relever appel devant la Cour suprême de justice. Mais lorsqu'il y a un acte administratif qui a violé la loi ou qui a violé les droits d'une partie, la procédure en matière administrative veut d'abord que cette personne lésée introduise d'abord un recours gracieux devant l'autorité qui a rendu la décision. Si dans les 3 mois, l'autorité qui a rendu la décision n'a pas rapporté son acte ou n'a pas pris des mesures, dans ces cas-là, la personne lésée peut alors saisir la juridiction compétente pour faire annuler la décision de l'autorité. Lorsqu'il s'agit des actes des autorités provinciales, la juridiction compétente, c'est la Cour d'appel. Et lorsqu'il s'agit des actes des autorités au niveau central, au niveau national, la juridiction compétente, c'est la Cour suprême de justice. Je ne sais pas si Fabrice a eu l'élément ou les éléments de réponse sur sa question, ou il a encore une préoccupation.
Vous êtes en ligne, Fabrice?
Oui, je suis toujours en ligne.
Oui.
Enfin, effectivement, je comprends. Je remercie l'intervenant pour l'éclaircissement. Je voulais d'abord parler, par exemple, pour ce qui concerne les recours, en fait, l'appel, en ce qui concerne l'insatisfaction dans les indemnités.
Mm-hmm. Oui, j'ai dit que dans ces cas-là, l'appel doit être formé s'il y a eu jugement ou un arrêt rendu déjà au niveau d'une cour d'appel et que la personne n'est pas satisfaite. Dans ces cas-là, la personne peut relever appel. Mais lorsqu'il s'agit des indemnités fixées par l'acte de l'autorité qui a exproprié, dans ces cas, il faut d'abord faire un recours en grâce, un recours gracieux, un recours administratif, et puis si le recours administratif ne donne toujours pas les résultats escomptés, après maintenant faire un recours devant les cours et tribunaux, dans l'espèce devant la cour d'appel s'il s'agit des autorités provinciales et à la cour suprême s'il s'agit des autorités au niveau central, même lorsque on n'est pas satisfait des indemnités fixées. On se rend compte que l'indemnisation n'est pas intégrale, l'indemnisation n'est pas à la hauteur du bien exproprié. C'est un acte qui pose problème, qui cause grief, on peut toujours l'attaquer.
Par rapport aux abus qui se constatent, puisqu'on a toujours dit que l'indemnité pour ce qui concerne le cas de l'expropriation, l'indemnité doit être juste et préalable. Qu'en est-il, quelle est votre position par rapport à l'indemnité qui n'a pas été préalable, que l'expropriation venait d'être opérée et que la victime n'a pas eu gain de cause par rapport au niveau de la justice? Quelle est la position à prendre par rapport à ça?
En principe, l'indemnisation doit être juste, c'est-à-dire intégrale, c'est-à-dire on doit indemniser en tenant compte de la valeur réelle du bien exproprié. Si tel n'est pas le cas, la personne peut aller en justice pour demander réparation, donc peut saisir la juridiction compétente pour demander réparation du préjudice subi, entre autres le réajustement de l'indemnité prévue.
Ok, je vous remercie.
Merci.
Ok, Fabrice a eu satisfaction à ses préoccupations. Maître, est-ce que vous pouvez donner brièvement quelques explications, les différences entre les différentes matières?
Ah bon, merci Thérèse. La matière civile, c'est une matière qui concerne les intérêts des parties, lorsqu'il n'y a pas l'ordre public ou l'intérêt général en jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrat entre deux personnes et que l'une des parties n'a pas respecté les clauses du contrat et cela a causé préjudice à l'autre.
Mm-hmm.
Donc une partie est victime de l'acte d'un autre. Là, il peut, ce qu'on appelle la matière civile, c'est une matière qui met aux prises des intérêts individuels. On parle de la matière pénale lorsque l'ordre public est troublé par une infraction, c'est-à-dire il y a un acte qui n'est pas conforme à la moralité publique. Et cet acte doit être au préalable prévu par la loi. Et la loi prévoit aussi pour cet acte des peines. Ça peut être une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Et pour ces actes bien définis par la loi, l'ordre public a été troublé. C'est le cas de l'assassinat, c'est le cas du vol, c'est le cas de meurtre, c'est le cas du viol et bien d'autres. Donc ces actes bien prévus et réprimés par la loi pénale sont des actes qui troublent l'ordre public.
Mm-hmm.
Et là, nous sommes en matière pénale. Accessoirement à l'ordre public qui est troublé, les personnes individues peuvent aussi voir leurs droits ou leur intérêt violé. Et dans ces cas-là, ces personnes peuvent s'associer à l'action publique pour demander réparation. Tout comme ces personnes peuvent amener aussi, citer directement ces personnes devant le juge pour que le juge, en plus de la sanction qui va être prononcée sur l'auteur pour le trouble de l'ordre public, on leur reconnaisse des dommages intérêts.
Mm-hmm.
La matière administrative concerne les actes administratifs et réglementaires pris par les autorités publiques.
Mm-hmm.
Donc, en bref, c'est ça les points qui font la différence entre les différentes matières.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Maître Dominique Kamwandou est membre d'Avocats sans frontières. Alors nous avons encore une autre question. Supposons qu'une jeune fille a été violée et qu'elle ait porté plainte, mais que le jugement ne lui est pas plu. Elle fait appel et elle se sent toujours lésée. Combien de fois peut-on faire appel?
Après l'appel, la loi prévoit la procédure de cassation, c'est-à-dire lorsque au premier degré les juges s'est prononcé, on n'a pas trouvé satisfaction, on est allé en appel, la même situation s'est répétée, on peut aller en cassation pour attaquer les jugements rendus au niveau d'appel. À la différence de l'appel, la cassation est une voie de recours extraordinaire, c'est-à-dire que le juge de cassation qui est au niveau de la Cour suprême de justice ne va pas se mettre à réexaminer les faits de l'affaire.
Mm-hmm.
Le juge de cassation réexamine le point des droits, donc le point des droits qui ont été mal prononcés ou ici il y a eu mauvaise appréciation, mauvaise application de la loi. Les juges de cassation réexaminent ces points. Si les juges de cassation estiment en âme et conviction qu'effectivement la loi a été violée, le juge de cassation casse la décision attaquée. C'est pour ça qu'on parle de la cassation. Mm-hmm. Casse la décision attaquée et donne la bonne idée ou la bonne argumentation sur le point de vue des droits. Mm-hmm. Et renvoie cette affaire devant une autre juridiction qui va restatuer sur les faits, mais en tenant compte du point de vue des droits tel que précisé par la Cour de cassation.
Est-ce qu'on recommence au début? Donc on recommence à zéro?
Au niveau de la cassation, non. On réexamine le point de droit. Mais quand on fait le renvoi après cassation, à ce moment-là, les juges réexaminent les faits et appliquent la loi en tenant compte du point de vue du droit donné par la Cour de cassation, bon, la Cour suprême de justice.
Donc il y a des jugements qui peuvent revenir plusieurs fois en Cour de cassation?
Non, après la cassation, c'est en dernier ressort.
Ah, ok. Alors nous avons Florent qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Florent.
Bonjour madame.
Oui, on vous écoute.
J'ai une préoccupation à demander au maître. C'est un rapport au problème du contrat de bail que nous signons avec le bailleur. Alors, la personne a versé son argent pour la location de la maison depuis 4 mois passés. Et jusque-là, il ne revient toujours pas à ses droits, donc il n'entre pas dans la maison. Et voulant maintenant récupérer son argent versé depuis tout ce temps, il n'a rien nécessité. Alors, comment on peut procéder à ce moment pour retrouver ses droits et quelle autorité contacter à ce moment pour obtenir gain de cause?
Merci Florent de votre question. En ce qui concerne votre préoccupation, la partie lésée peut saisir les tribunaux des grandes instances du ressort où se trouve la maison ou la résidence du bailleur et a la latitude de demander qu'on lui restitue son argent et il a même le droit de demander des dommages intérêts pour tous ces temps écoulés, des dommages intérêts compensatoires pour tous les préjudices qu'il a subis. Mais lorsqu'on réalise qu'il s'agit d'une infraction, c'est-à-dire que la personne a procédé par des manœuvres frauduleuses pour amener les locataires potentiels à lui verser de l'argent, ou s'il y a eu abus de confiance, c'est-à-dire que la personne a profité d'une situation pour faire signer un contrat, recevoir de l'argent et détourner cet argent à d'autres fins, là, on peut aussi recourir à la procédure en matière pénale. C'est-à-dire, on peut soit se plaindre au parquet, qui va instruire et faire fixer l'affaire, tout comme on peut aller par voie de citation directe devant les tribunaux des grandes instances du ressort.
Ok, merci beaucoup, monsieur, pour la réponse.
Oui,
merci.
Et c'est par là que nous allons clore cet entretien avec Maître Dominique Amandou. Nous avons parlé de la procédure à suivre pour faire appel. Merci beaucoup, Maître Dominique, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Thérèse.
Et à la prochaine.
Merci.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.